Bienvenue à tous et à toutes sur Radio B. Il est l'heure de résonance. Résonance, une chambre d'écho, un réceptacle de ce qui se vit, s'entreprend, s'invente, s'expérimente, s'explore, se crée, se réfléchit, se pense. Une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne, à la régie générale David Rousset, au microphone Alain Goudard. Les chemins de résonance nous conduisent en Bourgogne-Franche-Comté et plus particulièrement aujourd'hui dans le département du Doubs à Besançon. Nous nous trouvons ici dans cet auditorium du Conservatoire à rayonnement régional Grand Besançon Métropole pour évoquer d'une part le partage des arts, la richesse des différences, la richesse des arts, le partage des différences. Mais d'autre part aussi, regarder, observer ensemble comment on peut éprouver ces principes et surtout comment les mettre en œuvre ou comment cela se cherche, s'expérimente, s'invente, se pense au sein de certaines institutions culturelles telles qu'un conservatoire de musique par exemple. Ce sont des lieux qui ont une mission de découverte, d'accompagnement, qui imaginent des dispositifs, des modalités de parcours, d'accès, des offres adaptées pour chacun et chacune, pour tous ceux et toutes celles qui poussent la porte d'un établissement d'enseignement spécialisé ou d'un tout autre lieu de pratique artistique ou culturelle. C'est dire que l'humain se trouve placé au centre du sujet. Comment j'accueille l'autre? Comment je me mets en capacité d'accueillir cet autre que je ne connais pas? Que nous arrive-t-il quand l'autre arrive? Évoquer cela, c'est replacer au centre la question de l'hospitalité. Comment l'hospitalité se pratique-t-elle au quotidien? Pour qui? Pourquoi? À quelle échelle? Acte de rencontre et de reconnaissance, l'hospitalité nécessite au moins deux personnes et un espace où avoir lieu. L'hospitalité se dit en grec philoxénia, ce qui renvoie justement à cette part commune majeure qu'il s'agit de reconnaître pour apprendre à recevoir l'autre et mieux accueillir sa différence. Les humains s'enrichissent en accueillant ces différences. L'autre, l'étranger, nous apprend aussi beaucoup sur lui, mais également beaucoup sur nous. Habiter le monde, la ville, l'école, les lieux de culture, de pratique artistique, dès lors qu'ils se définissent comme espace ouvert, n'est-ce pas toujours déployer cet élan vers l'autre qui consiste à mettre les richesses culturelles en partage? Et c'est ce questionnement de Christophe Miqueux, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, qui va être au cœur de la rencontre, de l'échange que nous vous proposons de vivre ici, à Besançon. Alors, pour évoquer cette question d'hospitalité, dans cet auditorium ici du Conservatoire à rayonnement régional Grand Besançon Métropole, plusieurs invités sont autour de nous, autour de ce micro. Et je voudrais tout d'abord accueillir Arnaud Perruta. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes le directeur de cet établissement. Vous êtes d'ailleurs tout nouvellement arrivé, je crois, en début d'année.
Voilà, je suis arrivé au mois de janvier en pleine crise sanitaire.
Et
on
oui.
était tous bien masqués. Voilà.
En tout cas, merci aussi d'avoir facilité l'organisation aussi de cette émission. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir aussi à vos côtés Fabienne Lemoyne. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci aussi d'être là. Vous êtes la maman aussi d'un élève aussi de ce conservatoire qui a 9 ans et qui fait de la percussion.
Voilà, c'est ça. Paul est accueilli depuis maintenant, enfin c'est la troisième année là, qui apprend la percussion auprès du go. Enfin, et du coup, oui, ça n'a pas été forcément évident au départ qu'il soit accueilli ici. Donc, le conservatoire a ouvert ses portes un peu plus aux enfants différents et il était très en demande.
Et là, il joue sur quel instrument? Il a des instruments de prédilection, je dirais, dans le domaine de la percussion.
De toute façon, c'est un parcours là. Il aimerait tout de suite être sur la batterie, mais pour l'instant, c'est le xylophone et puis la caisse claire.
Très bien, Très bien. Donc, ensuite, je vais me tourner vers Violette. Violette Richard. Bonjour, Violette.
Bonjour.
Merci aussi d'être là. Par contre, là, on vient d'évoquer que c'est dans le domaine sonore et de la musique, c'est la percussion qui intéresse Paul. Vous, c'est le violon.
Oui.
Hein, et depuis plusieurs années, je crois, hein, déjà.
Oui, ça fait... je suis dans ma 10e année de violon.
Ouais. Donc voilà. Et juste la singularité, c'est que vous êtes malvoyante.
Je suis non-voyante.
Voilà, non-voyante. Hein ? Voilà. Donc merci. Puis d'ailleurs, on entendra tout à l'heure, en même temps, un moment musical que vous nous ferez partager. Donc merci d'être là. Je veux continuer avec vous, Mathieu. Voilà, Mathieu Delanoë.
Bonjour.
Alors, vous, c'est la trompette.
La trompette. La trompette et l'euphonium, qui est une sorte de tuba, un petit
oui,
tuba.
Ah oui. Mm. Lequel est venu en premier pour vous dans
la trompette.
La trompette. Mm. Et puis après, découverte un petit peu de cette famille de cuivre et, ouais. et de s'intéresser à l'euphonium. Mm. Ah, c'est super. Vous êtes en fauteuil, ce qui n'empêche pas de jouer justement de la trompette, au contraire.
Non, ce qui facilite pas spécialement la chose, mais
parce qu'il y a
possible.
Quand même la posture et voilà et mais ça va être intéressant aussi d'en parler tout à l'heure, mais en tout cas voilà, ça permet d'être inscrit de manière très importante dans une pratique instrumentale et puis de jouer avec les autres quoi en même temps, hein, ça aussi c'est important. Je continue aussi nos invités. Alors, il y a Geneviève Pernin. Geneviève Pernin, alors, vous êtes aussi dans le conservatoire, chorégraphe. Vous y enseignez la danse dans cet établissement. Et en même temps, alors ça, on pourra en parler aussi également, beaucoup des établissements spécialisés aujourd'hui, recherchant également à pouvoir accueillir d'autres personnes, tous en tout cas, font aussi qu'il y ait certains professeurs qui prennent aussi le rôle de référent. Entre guillemets, pour cette question d'accueil des publics différents et entre autres du handicap.
Oui, bonsoir à tous. Oui, alors je suis enseignante, mais pas dans le département danse, mais en tout cas pas de façon régulière. Donc j'interviens de façon ponctuelle et sur des projets.
Très bien.
Et cette mission de référent handicap, je la mène depuis 3 ans. Et je la porte à bras le corps, c'est-à-dire que je m'y engage totalement, que j'ai des appuis, bien sûr, de la direction, la précédente, la nouvelle, des enseignants, des élèves, des parents, voilà, et on avance ensemble dans cette histoire-là.
Voilà, on y reviendra là tout à l'heure. Et justement, il y a un des enseignants aussi avec nous ce soir, autour de ce micro, Jean-Yves Richard.
Bonsoir.
Bonsoir, alors je dirais à deux titres.
À deux titres, en tant que papa d'une enfant handicapée et en tant qu'enseignant au sein du conservatoire.
Voilà, et ça c'est intéressant aussi des deux côtés en tout cas. Et merci aussi d'être là. Vous enseignez le saxophone.
Oui.
Hein, voilà.
Donc, depuis 25 ans ici.
Oui, donc voilà. Ouais. Très bien. Et aussi, et ça c'était important, merci aussi d'être là. J'accueille aussi Lilian Lebas. Voilà, vous êtes directeur de plusieurs établissements, je vais peut-être pas tous les citer, hein, mais par contre ce qui est important c'est d'une structure, l'hygiène sociale de Franche-Comté, dont vous faites partie, dont ces établissements font partie, dont vous assumez la direction. Donc merci d'être là aussi ce soir.
Bonsoir, c'est voilà. Avec plaisir.
Et on aura l'occasion, je pense aussi, de pouvoir évoquer. Nous sommes ici dans un lieu culturel, une institution culturelle qui cherche aussi à faire, à s'ouvrir à tout le monde. Mais aussi, on peut être de l'autre côté de comment une maman ou un papa, ou voir un établissement aussi médico-social arrive à faire en sorte que les personnes qu'elle accueille, qu'elle accompagne, puissent aussi avoir accès aux pratiques artistiques et qu'elles soient et cheminer aussi avec les offres culturelles qui sont ici. C'est aussi un certain nombre d'enjeux également. Fort.
Alors c'est exactement les enjeux qu'on a maîtrisés aujourd'hui dans les établissements et services médico-sociaux et l'idée c'est de pouvoir proposer aussi aux enfants en situation de handicap de ces parcours aussi ou en tout cas de cette sensibilisation à l'art, à la musique mais ça peut être aussi d'autres choses.
Bien sûr, bien sûr. Alors peut-être je reviendrai vers vous dans un premier temps Arnaud Perroutard et pour voir aussi un peu cette problématique aussi un peu dans cet établissement, donc un conservatoire régional déjà avec tout un cursus et une organisation. Déjà comment vous vivez cette histoire, j'ai appelé justement sous cette thématique un peu de l'hospitalité. Comment ça résonne aussi pour vous cette idée d'hospitalité dans un établissement comme celui-ci?
Ben, je pense que c'est une notion vraiment centrale, puisqu'on parle beaucoup de l'accessibilité. Alors, c'est un terme qui a une résonance particulière quand on parle d'un public porteur de handicap, mais d'une manière générale, la question de l'accessibilité des conservatoires, c'est quelque chose qu'on travaille depuis longtemps. Cependant, on voit bien qu'avec la dimension que ça prend aujourd'hui vis-à-vis d'un public porteur de handicap, c'est plus nous qui définissons d'une certaine façon les normes de l'hospitalité, c'est le public qui les définit. Et ça, c'est vraiment, je crois, une vraie révolution dans notre milieu. Une manière de penser qui est complètement nouvelle.
Oui, parce que lorsqu'on a quelqu'un, alors je veux dire le public habituel qui était là pouvait interpeller sur ses modes esthétiques, ses modes de faire la musique et quelquefois obligé à faire bouger. Et on a bien vu, si on prend juste les musiques actuelles par exemple, à un moment donné, d'autres manières d'être en musique ou de faire de la musique sont venues questionner aussi ces lieux institutionnels et voir s'élargir. Là, alors certes, ça a bousculé déjà peut-être les organisations, les modalités. Là, du coup, on a aussi quelquefois des individus les plus divers qui arrivent et du coup cette hospitalité, c'est comment je disais tout à l'heure, cette phrase n'est pas de moi mais d'une philosophe, Marie-Josée Monzin, que nous arrive-t-il quand l'autre arrive, et je trouve que du coup ça élargit d'ailleurs beaucoup plus le questionnement, parce que effectivement ça se pose qu'on soit en situation de handicap, en situation de handicap, oui. Mais ça repose la qualité de l'accueil et de pourquoi je viens et de comment je peux être en musique aussi dans un lieu comme celui-ci.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, l'image qui me vient à l'esprit, c'est avant on se posait la question, est-ce que notre porte est ouverte ? Alors on regardait notre porte, puis on disait, bah oui, elle est ouverte. Maintenant, c'est plutôt, comment vous vous occupez des gens qui sont là ? Et là, c'est plus tout à fait une question de porte ouverte. C'est une question d'accueil, comme vous le disiez très justement, c'est une question d'hospitalité.
Et du coup, pour rester encore un petit peu sur cette question-là, comment du coup vous sentez, vous avec votre équipe, avec ce qu'est l'organisation, comment ça oblige à mettre en mouvement, je dirais à la fois les pédagogies, le faire musical, l'organisation administrative, comment accueillir aussi, je pense simplement à Mathieu en fauteuil, mais je fais une, par exemple à un établissement similaire au vôtre, un conservatoire à rayonnement régional aussi, mais celui-ci se trouve à Annecy. Ils ont la chance d'être dans un très vieux bâtiment. Il est magnifique, ce bâtiment. Par contre, toutes les personnes en fauteuil sont obligées de passer, par exemple, par la police municipale, parce que, du coup, c'est le seul endroit où il y a un ascenseur. Alors, du coup, il faut demander la clé à la police municipale, monter dans l'ascenseur, arriver dans un... j'ai fait le trajet il y a plusieurs fois en allant aussi dans ce conservatoire, et on a fait plusieurs émissions aussi là-bas. Et en même temps, il faut passer par tout un embryon de salle, et il faut traverser la salle de théâtre, qui quelquefois est un petit peu déjà utilisé par d'autres. Et puis enfin, je peux arriver dans l'endroit où je veux me rendre pour faire ou être en musique. Donc effectivement, alors là, on est dans un lieu qui est quand même tout à fait récent. Je crois qu'il y a une dizaine d'années.
Oui,
donc on voit que les questions d'accessibilité physique du bâtiment ont été travaillées. Mais il y a aussi toutes ces questions-là qui rentrent aussi en jeu et qui bousculent l'organisation quelque part.
Oui, alors chez nous, on a la chance que le bâtiment étant récent, comme vous avez dit, ça n'empêche pas qu'il y a toujours des améliorations et on continue d'en faire. Mais oui, on est plus reporté immédiatement sur la question du sens et l'accueil très concret de chaque personne. Moi, je voudrais quand même insister sur le point que les choses sont en train d'évoluer et on voulait évoluer en profondeur par rapport aux normes. C'est vrai que la loi date de 2005 par rapport à l'accueil des personnes handicapées. Il y a tout ce qui est relatif aux droits culturels. Ça va extrêmement loin en termes de droits fondamentaux de la personne. Puis maintenant, on voit arriver au niveau des conservatoires. En 2020, le ministère a produit un guide qui est très très riche de contenu. Donc c'est vrai que si d'un côté, moi je constate ici dans ce conservatoire, comme on le constate dans beaucoup d'endroits, les personnels sont ouverts à l'accueil de beaucoup de situations. Ça, c'est quelque chose, je dirais, le terrain est favorable, mais on voit bien que notre pays nous pousse à aller plus loin. Parce que maintenant, c'est les institutions qui doivent être hospitalières et pas simplement des initiatives personnelles. C'est un vrai changement qui ne m'échappe pas.
Vous avez tout à fait raison de le souligner, et on le sent d'ailleurs dans cette période-là, on est en lien avec différents établissements spécialisés de différentes régions, et il y a ce que vous soulevez, c'est-à-dire cette dynamique, cette volonté aussi des équipes, cette manière de vouloir aller plus loin, même si effectivement ça demande à toutes les institutions d'aller plus loin, mais en tout cas il y a une volonté très forte aujourd'hui, on le sent, des équipes enseignantes, de travailler cette question, d'aller beaucoup plus loin. Mais on sait qu'elle met en jeu beaucoup de choses. Alors, peut-être je vais me retourner vers vous, Mathieu Delanoë. On évoquait la pratique de la trompette. Vous avez eu quand cette envie est venue à quel moment pour vous, il y a longtemps déjà?
Elle s'est en quelque sorte un petit peu imposée, même si j'ai quand même toujours le choix, mais c'était un cadeau qu'on m'a fait.
Ah.
Et je n'avais jamais soufflé dans,
dans une trompette.
C'était un bugle en fait, au tout début, un dérivé de la trompette, que beaucoup de trompettistes jouent. Et voilà, je me suis retrouvé avec un bugle et je savais pas trop quoi faire à la base. Ouais. Et j'ai commencé à souffler un petit peu dedans de temps en temps. Et puis petit à petit, ça m'a plu et puis c'est devenu un point central dans ma vie.
Ouais.
Voilà.
Et du coup, à un moment de se dire, faut que j'aille la travailler quelque part aussi, ou que je me fasse accompagner dans la découverte de cet instrument. Une fois le cadeau et les essais personnels, les expérimentations.
Ouais, j'ai commencé. En fait, je suis venu assez tard à cette, enfin, dans un conservatoire. Je suis arrivé à 26 ans.
Oui.
J'avais commencé par faire autre chose dans ma vie. Je faisais des études de médecine. J'ai passé 5 ans à faire des études de médecine. Et à un moment, j'ai bifurqué. Ça s'est un petit peu imposé à moi. En fait, c'était un choix que j'ai fait et que, voilà. J'ai décidé de faire autre chose et je suis là maintenant.
Donc la musique?
La musique.
Principalement?
Mmh.
Donc devenir peut-être enseignant ou peu importe, de jouer. Et il y a un style prédéterminé. Là, je vous ai entendu répéter tout à l'heure parce qu'on aura l'occasion aussi de découvrir. Ouais. Ces gens. En tout cas, c'est super sympa de nous donner à entendre tout à l'heure. Donc un peu ce que vous jouez, on verra une étude plus classique entre guillemets, mais il y a un style plus particulier qui vous intéresse plus de développer au travers justement la trompette. Ou le phonium, parce que vous en parliez tout à l'heure.
Pour l'instant, plus quand même la trompette. Après, un style, c'est difficile à dire. Un style, mon style préféré, je fais un petit peu de tout, en fait. Ce que j'ai appris en institution, c'est le classique, parce que j'ai fait ça ici. Et là, je projette de faire prochainement une formation en jazz. Mais voilà, je me fixe pas dans un style
déterminé. En tout cas, de pouvoir peut-être expérimenter et naviguer dans cette.
Toucher un petit peu à tout. Voilà.
Vous êtes en fauteuil. Est-ce que ça a modifié des choses dans la manière de jouer? Il a fallu adapter des choses.
J'ai commencé après.
Vous avez commencé après.
Donc il n'y a pas eu. Il n'y a pas de. Ouais.
Donc ça, c'est formidable. Ça, du coup, d'adapter simplement le. Enfin, en tout cas au niveau de l'instrument.
Ouais.
Ça a modifié des choses ici, quand vous venez prendre vos cours. Il y a eu, au niveau, je dirais, de l'accueil, de l'équipe, de votre circulation. Alors, le lieu, on vient d'en parler avec monsieur Tourmbam et Peruta, le lieu est moderne. Donc, du coup, les accessibilités beaucoup plus faciles. Mais est-ce que ça a changé des choses vous avez senti des choses changer dans ce que vous côtoyez avant et le après?
Au niveau du conservatoire?
Ouais.
Je saurais pas trop dire. Quand je suis arrivé, je connaissais pas le conservatoire avant d'être.
Donc j'ai une découverte là aussi.
Voilà. Ouais. Il aurait peut-être juste pas fallu que je vienne avant, au conservatoire qui était quelques années avant que j'arrive.
Ah oui, qui était dans un tout autre espace, tout autre lieu.
Ouais. Mais ici c'est moderne et du coup tout est accessible. Enfin voilà, il y a pas de souci à ce niveau-là.
Donc du coup, investi dans toutes les pratiques aussi, j'imagine, individuelles et collectives aussi, qui vous sont proposées. Ouais. C'est assez chouette en tout cas. Merci Mathieu. Je vais vers vous, Fabienne Lemoyne. On évoquait tout à l'heure Paul. Lui, c'est la percussion.
C'était son choix. C'était son choix vraiment. Et au début, c'est vrai, quand il nous a dit... en fait, il a une grande sœur qui était au conservatoire. Bon, là, elle a fait une petite pause, mais... Et il avait très envie de faire comme sa grande sœur, en fait, et ce qu'on comprenait. Et puis nous, on se disait, ah là là, mais bon, comment ça va se passer? Est-ce que... Moi, je pensais même plutôt prendre des cours particuliers. Enfin, voilà, Et en fait, j'ai eu un rendez-vous avec la direction à ce moment-là, qui n'était pas Monsieur Perruta. Et en fait, vraiment une demi-heure même avant le rendez-vous, je me suis dit mais je vais l'annuler parce que on va me dire que c'est pas possible. Et déjà avant au téléphone, on me disait mais il y a des cursus à suivre, donc il faut faire l'instrument, mais aussi la formation musicale. Et moi, je savais très bien que il perdrait son temps. Il est suivi en classe à temps plein, et je me disais ça avait du temps perdu pour lui, de la fatigue. Et on m'avait dit, mais sans faire ces deux formations-là, ça ne va pas être possible. Donc je me dis, bon, est-ce que je vais à ce rendez-vous? Je vais encore me prendre une porte dans le nez. Et en fait, j'ai été très bien accueillie. Et on m'a dit à ce moment-là, effectivement, que le conservatoire voulait ouvrir ses portes un peu plus aux enfants différents. Moi, j'appelle mon enfant, je l'appelle un enfant extraordinaire, parce que je trouve que le terme est bien plus joli. Et en fait, du coup, ça a pu se faire avec donc un jeune enseignant qui était prêt vraiment. Alors, il a fallu évidemment qu'il sache un peu les soucis de Paul. En plus, il fait de la percussion avec des problèmes de coordination. Je me disais, ça va être un peu compliqué, mais en fait, il a beaucoup progressé. Ça l'a beaucoup aidé, même dans sa vie à côté, en dehors du conservatoire. Et à côté de ça, donc Geneviève nous a aussi proposé un atelier, donc du samedi matin, où des enfants porteurs de handicap ou non peuvent se retrouver autour de la danse, de la musique et encore de la percussion. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai été contactée, je me suis dit waouh, mais alors vraiment, il y a des choses qui vont se faire et qui vont être bien pour mon enfant. Et
Et donc, ça, c'était une nouvelle formidable, parce que j'imagine, c'est pas, enfin, en tant que parent aussi, vous disiez encore une porte peut-être dans la figure.
Oui, c'est ça.
Le quotidien est quand même complexe, difficile.
Parfois, c'est difficile de se dire que notre enfant peut pas faire comme les autres, et puis même comme son aîné, comme ça. Donc, il croise ses copains d'école qui eux ne sont pas porteurs de handicap, mais ils sont des fois avant lui en cours, etc. Il voit que voilà, il est là parmi les autres, comme il est à l'école d'ailleurs en inclusion, et donc voilà.
Peut-être, Geneviève Pernin, sur le fait de ce que vient avec le témoignage de Madame Lemoyne et concernant Paul. Du coup, on sent bien que il y avait des dans le cursus proposé ou dans le parcours, il y avait ces passages-là, j'imagine, de formation musicale ou d'autres qui ne pouvaient pas forcément correspondre là à ce que Paul pouvait faire. Donc du coup, ça veut dire que ça met en mouvement aussi quelque part, ça interroge l'équipe, ça interroge aussi le parcours de ce que peut faire celui ou celle qui vient frapper à la porte. Quel parcours ? Du coup, ça a dû bousculer, je dirais, la présence de Paul, parce que donc, peut-être au niveau même de la... Au niveau de la percussion, ça va engager le corps, mais ça va être une manière aussi d'aborder les choses avec lui, de comment on va le faire. Donc du coup, on parlait de référents tout à l'heure, mais ça amène plein de questionnements. J'imagine que l'équipe des autres enseignants se sont mis à partager les uns et les autres par rapport à « tiens, je rencontre telle personne, mais voilà, il se passe ça ». Et j'imagine bien qu'il y a le conseil pédagogique, il y a des échanges, mais en tout cas, ça bouscule encore plus loin, je dirais, peut-être les choses.
Oui, ça bouscule. Alors, c'est pas encore sans petit heurt, parce que c'est quand même des questions qui sont très compliquées, difficiles pour certains, que ça soit pour les parents qui sont dans le déni, pour l'enfant, enfin ou l'usager, pour les enseignants, pour toute l'équipe autour. Mais on est en mouvement. Effectivement, donc moi je viens de la danse, j'ai un grand parcours parce que j'ai eu beaucoup de publics en situation de handicap. J'ai pas choisi, mais j'ai pas refusé non plus, ça s'est présenté. J'ai pas de formation particulière, je suis pas danse thérapeute, je suis pas du tout dans ce milieu de l'art thérapie, c'est pas du tout mon espace. Et ce que je transmettais à ces enfants, et certains étaient vraiment très très lourdement handicapés, quand la première fois que j'ai eu des enfants très lourdement handicapés, je me suis dit oulala, mais le corps, là, il est allongé, quasi immobile. Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Et puis, je ne sais pas si ça vient de la danse contemporaine ou de mon parcours, de ma vie, de tout ça, sûrement un peu, une espèce d'évidence ou de non-crainte et de me dire, j'y vais. Les enfants, ils sont là, ils sont souriants. Il y en a qui ne sourient pas, il y en a qui ne me voient pas, il y en a qui me voient, il y en a qui me sentent, il y en a qui me touchent. Je suis là, on échange, on partage, on verra bien ce que l'on construit. Après, il y a des moments où je peux effectivement mettre des mots dessus, revenir sur l'expérience. Et puis, il y a des moments où c'était juste l'instant présent. Il y a eu un langage de corps qui est passé. C'est bien, c'est super, c'est magnifique. Et puis, voilà. Donc, porteur de toute cette expérience-là. Je suis rentrée au conservatoire sur un remplacement, vraiment dans un cours traditionnel du département danse. Et il se trouve que j'ai amené un groupe d'adultes en situation de handicap avec qui je travaillais, en dehors du conservatoire, sur un projet de théâtre. Le projet de théâtre s'arrêtait, je leur ai dit « Ok, le projet de théâtre s'arrête, moi je veux bien continuer, mais du coup ce sera en danse, et ce sera plus à Pontarlier, ce sera à Besançon et au conservatoire. » Donc il y avait quand même du mouvement à nouveau.
Un grand mouvement, oui.
Il se trouve que le directeur à l'époque, je sais pas, ça c'est arrivé à ce moment-là, ça a pu se faire. Mmh. Et puis, au bout de 2 ans de cette expérience-là, on a eu envie de discuter la notion du handicap au sein du conservatoire et de prendre les choses un peu plus en main. Donc, il y a eu un état des lieux qui a été fait, que j'ai porté, donc à essayer de rencontrer dans l'idéal toutes les personnes, donc les usagers, les parents, les enseignants, les équipes d'accueil, la direction, les surveillants, tout le monde. Et qu'on puisse parler de façon très simple autour du handicap, est-ce qu'il avait sa place, est-ce qu'il n'avait pas sa place, quelles étaient les questions, les problèmes, les difficultés, etc. Et donc on est arrivé à la création de cet atelier qui s'appelle Créadapt. Alors certains souhaitent modifier, que ça ne devienne plus que création, parce que c'est la création adaptée, que ça ne devienne plus que création, pourquoi pas. Où l'idée est d'accueillir, enfin l'idée, le projet, puisque ça fait 2 ans que ça se fait, d'accueillir des enfants en situation de handicap, mais pas que. Moi, je tiens, enfin, j'ai réussi, je dirais, à mettre ça, mais parce qu'on était tous d'accord, qu'il n'y ait pas du tout de département handicap dans ce conservatoire, comme ça existe dans d'autres structures. Et du coup, à chaque fois que j'accueille un public en situation de handicap, que ce soit les adultes que j'avais pendant 3 ans ou là, les enfants, ils sont toujours mélangés.
C'est ça.
À un moment donné. Alors, soit c'est toute l'année, là, c'est le projet toute l'année, effectivement. Les enfants, n'importe qui peut venir à partir du moment où il est inscrit au conservatoire. Et les enfants en situation de handicap ou extraordinaire peuvent venir rien que pour cet atelier-là. Et dans cet atelier, donc, il y a 30 séances, il y a 10 séances de danse avec moi, 10 séances de percussion, travail de percussion avec Hugo, donc, qui est le professeur aussi, l'enseignant de Paul, et 10 séances de travail sur la voix. Les enfants sont obligés de faire ces 30 séances-là. Voilà, parce que ça me semble être effectivement...
Des entrées importantes.
Oui, vraiment le tronc commun pour après. Et ça ne les empêche pas de faire des cours comme Paul à côté, donc avec un instrument. Ça leur permet aussi de démarrer avec Créadapt, comme ça a été le cas avec un autre enfant qui a fait 1 an Créadapt. Et en 2e année, il est toujours Créadapt, mais il est rentré aussi dans la classe de percussion. Voilà, donc c'est très ouvert. Il n'y a pas d'examen. Il y a pas de, voilà. Et la tranche d'âge, c'est de 8 à 17 ans. C'est ouvert aussi, parce que finalement, on peut se mélanger aussi, qu'on soit en situation de handicap ou pas, qu'on soit gros ou maigre, les cheveux gris ou les cheveux... Là. Enfin bref, voilà, en danse contemporaine, tout le monde peut danser. Donc voilà, dans cet atelier-là aussi. C'est pas toujours facile, hein, pareil, il faut se dépatouiller avec...
Bien sûr. Mais... Je crois que ce qui est important dans ce que vous dépeignez, les témoignages que vous nous faites, c'est aussi de se dire effectivement que ce qui est important, c'est d'être ensemble et de faire ensemble. Et que les pratiques artistiques aussi, elles peuvent être un espace. Si on le prend par ce prisme-là, on évoquait l'hospitalité tout à l'heure, en tout cas de la manière peut-être de l'envisager, où on peut revisiter justement les rôles, les compétences, les places, et que faire que tout un chacun justement puisse trouver un peu sa place. Alors, vous évoquez la danse, la voix, peut-être que aussi, en pensant aussi à Paul et sa manière peut-être après d'entrer dans l'univers de la percussion, ça oblige peut-être aussi à élargir la culture, l'esthétique aussi, parce que je prends encore l'exemple de Paul, mais peut-être qu'il ne va pas pouvoir être tout de suite dans quelques exercices de percussion hyper précis de la manière dont on va faire, mais on va quand même être dans la même exigence artistique, et c'est ça qui me paraît extrêmement important, en accompagnant Paul à aller aussi dans cet univers, à maîtriser aussi des choses, mais que ça fait bouger l'un et l'autre, ça fait bouger Paul en tant que musicien, et s'aventurant, mais en même temps aussi l'enseignant qui est là, qui accompagne, et comment ça se rencontre finalement, peut-être Fabienne Lemoine.
Oui, en fait, c'est vrai que Hugo est exigeant avec Paul et je trouve ça très bien. C'est-à-dire que le morceau, il faut qu'il le sache bien, il le fait faire et refaire. Enfin, voilà, après, il va pas le. Si Paul s'énerve dessus, il va passer à autre chose. Mais je trouve que c'est très bien aussi qu'ils disent bon, ben là, je pense que tu peux faire mieux. Donc, la semaine prochaine, il faut que tu le retravailles pour la semaine prochaine, quoi. Et je trouve ça très bien aussi de pas se dire simplement, bon, bah, de toute façon, il va pas y arriver, donc on laisse tomber, on va faire autre chose. Et il voit qu'il y a quand même quelqu'un derrière qui veut qu'il réussisse en dehors de ses parents.
C'est ça. Et est-ce que ça arrive pour l'instant qu'ils soient en musique avec d'autres ?
Et alors, pendant le confinement, il y avait eu les professeurs de percussion nous avaient fait travailler des rythmes, ouais. Voilà, et chacun avait sa partition, et voilà, mais on était chacun chez nous. Mais en fait, oui, à la fin, il y a eu un morceau en commun, et c'était super de faire ça, ouais, vraiment.
Monsieur Lebas, on parle d'une institution, mais avec ses réflexions, ce que ça met en mouvement, mais vous aussi, dont la structure est aussi d'accompagner toutes ces personnes, d'accompagner les familles aussi, mais d'accompagner tous ces adultes, ces enfants aussi à faire leur chemin de vie, et en tout cas ce qu'ils soient le plus, je dirais, en phase aussi avec ce que sont ces individus. Il est certain que on est dans la semaine du handicap. Alors j'en profite pour dire à nos auditeurs que cette émission est enregistrée justement ici à Besançon, donc le 17 novembre dernier, mais qu'elle va être diffusée le 14 décembre. Donc il y a ce petit décalage, mais nous sommes aussi dans la semaine du handicap avec toutes les questions. Donc c'est une semaine nationale où on se repose un peu toutes ces questions. On parle notamment du travail, mais peut-être on en parlera moins. Dans le cadre d'aujourd'hui, mais la culture peut être aussi un endroit fort aussi et extrêmement important. Alors il se passe beaucoup de choses aussi dans les institutions médico-sociales. Il y a, on le sait, par différents dispositifs qui existent aussi depuis longtemps, je pense aux cultures et santé, certains départements aussi développent certains programmes culture et inclusion. Il y a quand même aussi des volontés de faire se rapprocher le médico-social et la culture, comment croiser des énergies justement pour que tout un chacun puisse bénéficier de ce bien commun qu'est la culture. Comment ça se travaille un petit peu à votre échelon, au niveau des établissements que vous avez sous votre responsabilité?
Eh bien, c'est vrai qu'on a évoqué la question de la loi de 2005 sur l'égalité des chances, ouais. et ça a été un mouvement aussi initié pour le médico-social que de se dire les personnes en situation de handicap, notamment les enfants, pour moi, on n'a pas vocation à rester dans les établissements. Et que aujourd'hui, on parle d'inclusion, mais on a vraiment un esprit d'aller sur l'extérieur, d'aller dans les espaces de droit commun. On parle beaucoup de l'école inclusive, mais ça s'arrête pas que là. La dimension, elle est aussi sur l'art, sur la musique précisément, et de pouvoir proposer aux enfants que l'on accueille de pouvoir faire de la musique, de pouvoir aller faire de la musique pour aller sur l'extérieur, parce que c'est une démarche sociétale. Mmh. Et puis, c'est le projet qu'on travaille pour tous ces enfants. Et on les amène à être sensibilisés à ça, parce que il y a un élément qui est important, c'est aussi le plaisir.
Bien sûr.
C'est pas non plus... c'est pas qu'apprendre, c'est aussi prendre du plaisir à faire de la musique, à entendre de la musique. Et c'est vrai, quand on a... des espaces comme le conservatoire ou des intervenants qui nous proposent aussi de pouvoir faire ça, où on vient les chercher aussi parce qu'on est dans cette démarche-là, les établissements et services médico-sociaux.
Il y a des intervenants du conservatoire qui viennent vers vous déjà ?
Alors, à ce jour, non. Mais par contre, je sais qu'il y a déjà eu, parce que j'ai vu dans l'établissement que j'ai sous ma direction, une intervenante que je connais ici et qui est déjà venue jouer de la musique. Et par ailleurs, on a d'autres intervenants que le conservatoire qui viennent dans nos murs. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est des souhaits aussi des familles que de pouvoir ouvrir à la culture les enfants qu'on accueille. Et puis, quand on voit les enfants avoir ce plaisir d'écoute ou de jouer ou de faire, on ne peut que continuer dans ce sens.
Alors, est-ce que vous, de votre perception, alors peut-être qu'il y aura des projets avec le conservatoire où certains vont se mettre en place, comment vous observez justement un peu de votre place à vous cette accessibilité aux différents, à l'offre culturelle, je dirais, que peut-être qu'il y a ici sur Besançon et le Grand Besançon? Est-ce que ça reste encore quelque chose aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a aussi, faut dégager un éducateur, faut dégager du temps, faut être à l'écoute aussi de ses usagers et de voir comment je peut accompagner ça. Il y a aussi des nécessités de, je dirais, purement organisationnelles, financières, d'accompagnement de personnel, et qui quelquefois mettent des freins aussi à cette envie, comme vous l'avez dit, qui est un droit pour tout un chacun, sans aucun problème, mais qu'on voit aussi que quelque part, quelquefois, il y a des difficultés, soit pour aller, soit pour organiser. Qu'en est-il un petit peu pour vous ?
Alors, vous avez évoqué les bons paramètres. la question financière qui peut entrer en ligne de compte, effectivement. Et puis, c'est aussi peut-être l'enthousiasme que peuvent avoir les professionnels à pouvoir aller aussi sur ces domaines-là. Et puis, de pouvoir mener ces projets. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a un vrai changement qui s'opère. Mais comme je disais, c'est sociétal. On parle beaucoup plus de personnes en situation de handicap. On a envie d'ouvrir aussi notre société à ça. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de chemin, même si on est en 2021 et que la loi elle date de 2005. Mais pour autant, on sent une vraie dynamique. Et c'est vrai que les établissements médico-sociaux, on a cette ouverture, mais pour beaucoup, de vouloir aller sur l'extérieur, de vouloir sensibiliser les enfants, les familles, de se renseigner aussi sur les partenariats qu'on peut mettre en place. Et puis, c'est une affaire de personne. Et quand on sait que on a des gens qui sont très investis, des professionnels, des intervenants, des dispositifs comme le conservatoire, du coup, ça amène une dynamique et on a envie de faire. Et le directeur que je suis aujourd'hui, ça le galvanise aussi à pouvoir finaliser ces projets-là, à se dire non, on peut trouver aussi les financements, les budgets, parce qu'on peut les trouver aussi dans nos budgets de fonctionnement, ce qui n'est pas un frein à pouvoir développer ce type d'action.
Je crois que c'est assez important, effectivement, ce que vous soulevez, que là, on voit bien, ça va dépendre aussi de la volonté aussi d'action. Des directions, des directeurs et des gens qui sont là aussi en même temps.
Oui, des professionnels, parce que là, c'est vrai que c'est eux qui vont agir.
Il y a certainement peut-être besoin de les accompagner aussi, ces professionnels, à aller vers les démarches culturelles.
Alors, sincèrement, de mon expérience et de ce que je vis aujourd'hui, non. Ils n'ont pas besoin de moi et ils n'ont pas besoin d'avoir une impulsion. C'est eux qui nous l'amènent aussi.
C'est ça.
Après, c'est vrai qu'on a nos propres sensibilités qui font qu'on a envie d'aller développer des choses, de rencontrer des personnes et puis de voir ce qu'on peut créer pour la suite.
Violette, vous êtes le violon.
Oui, c'est le violon.
Et cette rencontre avec le violon, il y a un moment qu'elle s'est faite pour vous, cette rencontre avec cet instrument, avec ce qu'il est aussi?
Alors, la première fois que j'ai vu un violon, je pense que c'était celui de mon grand-père qui était en train de pourrir dans la chambre de mes parents. Voilà, parce que mon grand-père est décédé et ma mère a hérité de son vieux violon qui était infesté de verre. Et étant donné que mes parents sont tous les deux musiciens ou anciens musiciens, j'étais un peu, entre guillemets, prédestinée à faire de la musique. Et voilà, c'est le violon qui m'a donné envie. J'aimais entendre. Et puis voilà, il y avait le violon qui me tendait les bras dans la chambre mes parents. Alors, mes parents ont quand même décidé de me faire ce qu'on appelle les ateliers de découverte instrumentale au conservatoire. Oui. Donc, à l'époque, c'était d'ailleurs à l'ancien conservatoire qui était absolument pas accessible.
Pas accessible du tout, compliqué.
Voilà. C'était sur trois mercredis, on découvrait un instrument. Et je crois que dans l'année, c'était environ une dizaine d'instruments qui étaient découverts. Malgré ça, j'ai quand même décidé de rester sur le violon et je regrette pas du tout.
Très bien. Et du coup, cet amour du violon, il se poursuit, il se développe. Vous jouez aussi avec les autres. Il y a plein de projets aussi qui se font ici à l'intérieur du conservatoire, de croisement.
Oui, tout à fait. Déjà, je fais partie du jeune orchestre symphonique du conservatoire qui regroupe les musiciens qui sont en troisième cycle ou plus. Et je fais aussi ce qu'on appelle de la musique de chambre, donc de la musique d'ensemble. En l'occurrence, moi, je suis en quatuor à cordes, donc violon, deux violons, un violoncelle et un alto.
Ça, c'est passionnant.
Oui, c'est passionnant, surtout que, pour ma part, j'aime tellement ça qu'on a décidé de faire ça aussi en dehors du conservatoire. Et cette année, notamment, on a fait des projets pour lesquels on a été rémunérés. Donc
C'est super.
Je veux dire, l'argent, c'est pas mon problème pour le moment. Je vis chez mes parents, mais symboliquement, je trouve que c'est fort quand même de vivre de ce qu'on aime faire, vraiment.
Tout à fait. Puis de se retrouver à quatre, l'aventure du quatuor à cordes, c'est quelque chose d'incroyable.
C'est génial.
Ben oui, j'imagine. Alors, est-ce qu'on pourrait vous demander de nous faire entendre ce... Alors là, c'est plus le violon pourri de verre, mais c'est un autre violon.
Ah, c'est le même. C'est le même. Il a été refait. Voilà.
Alors, on va peut-être, si vous voulez bien, vous demander de rejoindre la petite zone qu'on a repérée tout à l'heure. Et puis, on va vous écouter donc dans un extrait d'un nocturne, un extrait de la suite Mascarade de Khatchatourian.
«
Merci beaucoup, Violette, pour ce moment riche. Et puis c'est important que la musique soit là dans cette émission, qu'elle vive. À côté, il y a votre papa.
Oui.
Peut-être, du coup, sur les deux points, entre tout ce que nous avons un petit peu soulevé là déjà depuis le début de notre émission, peut-être le point de vue de l'enseignant, ne serait-ce que de sentir aussi que le conservatoire s'ouvre, accueille des personnes différentes, certainement que dans aussi les élèves que vous avez, vous êtes confrontés à une diversité de singularités, et en même temps la présence aussi de ces autres personnes dans l'établissement, on vient d'interpeller un petit peu l'équipe, la manière de faire en musique. Comment ça se vit pour vous ?
Alors, moi, j'avais déjà connu l'accueil d'enfants handicapés, mais avant que j'arrive à Besançon, on avait une convention avec une association qui s'occupait d'enfants aveugles et non-voyants, avant que j'aie moi-même un enfant aveugle et non-voyant. Et donc, on bricolait, quoi. Mais on bricolait bien quand même.
Mais on bricolait.
C'est-à-dire qu'on faisait vraiment en fonction de chaque enfant.
C'est ça.
Voilà, on nous disait au début de l'année, tu vas avoir tel enfant avec tel niveau de vision, et puis après on se débrouillait, quoi. Mais finalement, on s'en sortait. Alors après, maintenant tout ça, c'est cadré, on est obligé aussi de le faire. Le souci du handicap, en fait, c'est le problème, c'est qu'il y a pas un handicap, ça serait trop simple.
Bien sûr.
Voilà, si on avait qu'un seul handicap, n'importe lequel, on s'en sortirait tout le temps, on trouverait des outils. Le souci, c'est qu'il y a des fois autant d'handicaps qu'il y a de personnes handicapées ou d'enfants. Et des fois, pas qu'un seul handicap sur la même personne. Donc là, c'est là que c'est un petit peu que ça se complique. Donc il faut trouver, déjà, il faut pouvoir discuter avec les personnes concernées ou les parents des personnes concernées. Faut être franc. Savoir ce qu'on peut faire, juste savoir où on peut aller et savoir ce qu'on ne peut pas faire. Il ne faut pas que les parents hésitent à pousser les portes des conservatoires pour venir faire la musique, mais il faut aussi qu'ils acceptent le fait que peut-être qu'on va leur dire ça ne sera pas possible. Parce que si on a des droits, on n'a pas tous les droits non plus, quoi. Et pour certains handicaps, moi, si ma fille elle joue du violon, elle se débrouille bien, il n'y a pas de souci, mais si elle avait voulu faire du ping-pong, ça aurait été un peu plus gênant quand même. On aurait eu un souci.
Il aurait fallu inventer un nouveau jeu.
Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire. La musique en aveugle, ça pose pas de souci. Il y a certains handicaps qui peuvent être bénins pour la vie de tous les jours, mais si vous avez un doigt qui est raide, pour faire du saxophone, pour faire du violon, pour faire du piano, ça marche pas. Par contre, on peut faire peut-être d'autres instruments.
C'est ça. C'est-à-dire que du coup, il y a des possibilités de voyager, d'avoir d'autres propositions.
Il faut faire confiance en fait aux gens qui vont vous recevoir aussi et qui vont.
Donc c'est là où la notion d'accueil est importante finalement.
La notion d'accueil, la notion d'accueil est bien prendre le temps de connaître les personnes qu'on a en face de soi.
Mais est-ce que c'est pas une vérité pour quiconque qui vient dans le conservatoire finalement ?
Si, mais ça fait encore plus aux personnes.
C'est ça. Mais je veux dire, peut-être que ça c'est des choses d'ailleurs qui ont évolué, je pense, avec le temps. On prend un peu plus le temps d'accueillir, c'est-à-dire le fait qu'on a des personnes différentes sont venues dans ces lieux. Peut-être on a commencé de se dire comment on peut accueillir, mais l'ensemble du public en général, et se poser les mêmes questions avec tout un chacun.
On le fait déjà, on était obligé de le faire aussi, parce que le conservatoire n'accueille pas non plus que des enfants, va accueillir aussi des fois des adolescents et aussi des adultes. On n'apprend pas la musique de la même manière à 6-7 ans qu'on l'apprend à 45 ans. Les marges de progression ne sont pas les mêmes non plus. Les méthodes ne sont pas les mêmes non plus.
C'est ça, je suis sans arrêt en mouvement et je suis obligé d'être en observation et de s'adapter à qui est là, quoi, finalement.
Voilà. L'enseignant doit s'adapter et s'adapter à toutes ces situations. Après, il y a un temps d'adaptation. Il faut être aussi conciliant avec la personne qui va vous enseigner l'instrument. Et après, voilà.
C'est un accordage. Voilà, de deux individus qui se rencontrent. On sait que la rencontre, c'est compliqué, la rencontre, finalement. Parce que c'est ça qui est au cœur du sujet. Je rencontre l'autre avec ce qu'il est dans sa multiplicité.
La rencontre est compliquée. Une prise de risque. Et la rencontre, elle fait toujours un peu peur, quoi.
Bien sûr.
Et après, une fois qu'on a passé cette étape-là, finalement, mais faut oser le faire, quoi.
C'est ça. Donc, il y a une prise de risque importante d'avoir envie d'aller vers l'autre, quoi, finalement. Oui, de se mettre en danger. Ça, c'est important. Qu'en pensez-vous, monsieur, Beruta,
il n'y a pas de mal.
Parce que c'est une question importante, je trouve, là, de ce que évoque Jean-Yves Richard, justement, dans cette mobilité, justement, de l'enseignant vis-à-vis de qui est là. Justement, quand je disais, quand l'autre arrive, qu'est-ce qui nous arrive, finalement,
oui. est important. Je crois qu'il faut pas qu'on ait peur de nos capacités d'adaptation. Je pense que les personnes qui sont en situation de handicap le prouvent à chaque instant de leur vie. Je pense que cette capacité, nous l'avons aussi, nous, et nous l'avons aussi en tant que, ce qu'a très bien dit M. Richard, mais on l'a en tant qu'institution, en tant qu'établissement. Il faut juste comprendre qu'il y a un signal qui est donné pour nous d'aller plus loin. Moi, je sais que j'ai vu dans d'autres établissements le développement d'instruments spécifiques. Donc il y a certains, je pense qu'il y a des instruments qui sont difficilement accessibles, comme ça a été dit, pour des enfants ou des jeunes qui auront des personnes qui ont certains handicaps, mais il y a aussi des instruments à inventer. Il n'y a pas d'interdiction dans ce domaine-là. Les conservateurs, on est très encouragés dans les possibilités d'innovation, et il y a d'ores et déjà, je pense aux moyens numériques. Moi, j'ai vu des expériences que vous devez bien sûr connaître, qui sont étonnantes, parce que avec des mouvements très réduits du corps, ça génère des interruptions de faisceaux, enfin je comprends pas très bien comment ça marche, mais le résultat est flagrant, c'est que l'expression artistique devient possible au travers de moyens qu'il faut inventer. Moi, je voulais juste citer quand même quelque chose d'assez fort qui a pu être exprimé par la ministre de la Culture, qui pour nous c'est notre tutelle, et qui dans ce guide justement a une phrase très forte au début dont il faut que nous, conservatoires, on mesure la portée et le sens, puisque notre ministre dit, je la cite, « Donner à chacun les moyens de s'épanouir, de s'exprimer, d'aller à la rencontre des autres par la pratique artistique constitue la mission essentielle des établissements d'enseignement artistique. » C'est quand même très fort comme phrase. Alors après, il faut voir comment on peut mettre de la chair autour, mais je trouve que ça permet de sentir quand même le changement d'époque. Le changement de ton ou d'époque. Il y a une place qui est ouverte, et à nous maintenant de l'investir avec créativité et enthousiasme.
Peut-être que ça replace aussi la création, l'improvisation, les démarches de création, parce que l'exigence aussi du projet artistique aussi, ou de la proposition artistique, semble aussi importante, parce que on entend aussi quelquefois dans le médico-social aussi l'aspect occupationnel, et on quitte l'aspect occupationnel. C'est-à-dire que du coup, aller vers le conservatoire, ou quelle que soit d'ailleurs l'équipe artistique qui intervient, c'est-à-dire il faut que le projet artistique soit fort pour pas qu'on tombe dans une pratique artistique qui pourrait être spécifique à... On a eu des discours aussi de cet ordre-là, peut-être la pratique artistique de la personne trisomique, ça pourrait être ça, ou de tel autre. Du coup, il y a un danger de stigmatiser une pratique artistique, et là, si on remet l'exigence artistique au cœur du sujet, peu importe qui nous sommes, qui est en présence, mais c'est ça qui va être important. Peut-être Monsieur Lepas, puis vous derrière, si vous voulez bien.
Alors moi, je suis d'accord sur le principe de dire qu'on fait pas une activité pour faire une activité, mais faut qu'elle ait un objectif, faut qu'elle ait un but, faut que ça soit un projet qui soit réfléchi, qui soit en correspondance avec les besoins, les capacités, les attentes aussi, quelquefois, que peuvent avoir les parents. Et je pense qu'on s'est vraiment défait aussi de ce principe de faire pour faire, et que ça ait du sens. Voilà. C'est vrai que ça a du sens pour vous aussi, dans le conservatoire, de mettre en place certaines choses, et dans le médico-social aussi. On met du sens dans les projets que l'on a avec les enfants et dans les activités qu'on leur propose, parce que c'est un but, c'est un objectif, je l'évoquais, ça peut être le plaisir, ça peut être le bien-être, ça peut être la découverte, ça peut être la communication qu'on a avec l'objet, avec son corps, dans les déplacements, dans les sensations qu'on va avoir. C'est un tout, et c'est vrai qu'on le réfléchit, et on le construit de cette façon-là.
Arnaud Perruta, si vous voulez rebondir derrière.
Rebondir, oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que, là, je peux me permettre de le dire, parce que comme je viens d'arriver, je me fais pas des compliments à moi-même, mais c'est ce que je trouve aussi très bien dans ce qui a été mis en place dans ce conservatoire, c'est qu'on part vraiment, on est parti du terrain. Puisque le rôle de Geneviève Pernin consiste d'abord à accueillir les personnes. Donc sa mission, c'est, voilà, on fait savoir que s'il y a des personnes en situation de handicap qui veulent frapper à la porte du conservatoire, maintenant c'est même plus la peine d'aller voir le directeur, il y a Geneviève dont c'est le rôle. Donc ça veut dire déjà l'accueil. On dit d'accord, oui, on vous accueille. Ensuite, il y a un travail vers les enseignants, puisque la plupart des enseignants, ils sont d'accord, mais ils ne savent pas forcément comment faire.
C'est
donc
ça.
Geneviève, elle fait un travail pour accompagner Après avoir accompagné l'enfant ou le jeune ou la personne, on accompagne l'enseignant, on crée des passerelles. Et je trouve que c'est la bonne méthode. Parce que si on peut aussi partir de la technostructure, inventer une usine à gaz et puis regarder s'il y a des gens qui ont envie de rentrer dedans, mais ça marche pas. Donc aujourd'hui, je dirais, on a les deux extrêmes. On a le cadre qui est donné et le ton avec cette phrase de notre ministre qui a été donnée. Donc on sait que la direction, elle est ferme et qu'il y a une vraie volonté d'y mettre des moyens. Mais en même temps, il faut repartir certainement de cette hospitalité de base pour ensuite voir qu'est-ce que ça peut donner comme fruit et comment ça peut se multiplier.
Jean-Yves Richard, est-ce que du coup, quand vous évoquiez bien justement cette diversité, cette adaptation, est-ce que aussi à certains moments donnés, j'évoquais aussi un peu à dessein, on va voir qu'à certains moments donnés, c'est parce qu'on va passer vers l'improvisation, parce qu'on va être dans les démarches de création, ça va ouvrir des portes, ce qui n'empêche pas de revenir à des pratiques, à des pratiques pures, traditionnelles de l'instrument, mais que du coup, il va y avoir des entrées en fonction de qui est là, des potentialités qui sont présentes, à trouver des portes d'entrée pour que ça se rencontre.
Je crois qu'il va trouver. Enfin, en fait, on essaie de trouver tous les subterfuges qui sont à notre disposition pour faire progresser. Et ça va vraiment être en fonction de chaque enfant dont on va s'occuper. Violette, elle a un enseignement qui est quasi, entre guillemets, normal. Après, adapté à son handicap. Pour plein de handicaps, ce sera la même chose. Et puis, des fois, il va falloir faire complètement autrement. C'est pour ça que je parle. Le problème du handicap, c'est toujours le temps. Le temps. Il faut du temps, plus de temps. Mais il faut plus de temps aussi pour la personne qui va s'occuper de l'enfant handicapé. C'est-à-dire que, parce qu'il va falloir trouver des fois des solutions, et les solutions, elles ne sont pas naturelles. Si on a une expérience dans le handicap, on a une expérience dans un handicap, mais peut-être pas dans un deuxième ou un troisième. Et il va falloir retrouver encore, toujours se remettre en question. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est pas reposant intellectuellement.
C'est vrai que ça nous met dans une intranquillité, un mouvement permanent, si je peux employer aussi ce terme, qui est un peu comme la vie, c'est-à-dire que du coup c'est un chemin dont on ne sait pas comment il va être et qui nous oblige tout le temps d'être en mouvement. Mais peut-être la rencontre de l'énigme qu'est l'individu, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un perpétuel quelque chose qu'on ne sait pas encore ce qu'il va être et comment il va être après, et que ça nous oblige sans arrêt d'être en mouvement.
Alors ça nous sort de notre zone de confort. Voilà. Ça, c'est
peut-être
ça,
que c'est un aiguillon intéressant de ce fait-là, parce qu'il nous sort en permanence de notre zone de confort.
Et le souci, c'est que nous, en tant qu'enseignants de la musique, on n'a pas été formés du tout à ça. On n'a pas eu de... Moi, quand on m'a appris à enseigner, j'ai eu de sensibilisation au handicap. Ça vient petit à petit, on commence, on fait des formations, et puis ça ne sera jamais complet. Donc voilà, il faut s'adapter tout le temps. Mais il faut s'adapter comme les personnes handicapées s'adaptent à leur environnement.
Et oui, ça, je crois que je voulais revenir vers vous, justement, Fabienne Lemoyne. On vient de parler d'adaptation, de mobilité, d'inventivité, mais vous y êtes confrontée en permanence, vous aussi, dans votre quotidien.
Ah oui, bien sûr. Nous, on est obligés, on suit Paul et on l'aide dans tout ce qu'il doit faire, donc on s'adapte, oui.
Et donc, du coup, là aussi, c'est les partages d'expériences à des endroits différents, finalement, sont aussi très importantes. Il y a le partage peut-être en équipe d'enseignants, mais aussi la relation avec les parents, de bouger ensemble, d'inventer aussi peut-être, quand c'est nécessaire, aussi ensemble. Jean-Yves Richard ?
Oui, peut-être. Après, c'est très fatigant d'être parent d'un enfant handicapé.
Vous avez raison.
Ça demande beaucoup de temps. Beaucoup d'investissements. Quand on dit frapper aux portes, il y a des fois, il faut vraiment frapper très fort.
Il faut frapper très fort, hein, quelquefois.
Et c'est vrai qu'il y a des fois, pour une activité qui peut paraître pas obligatoire, il y a beaucoup de parents, je pense, qui vont dire non, c'est bon, j'ai déjà assez à faire avec le reste, donc je ne vais pas en plus me rajouter ça. C'est dommage, mais c'est pour ça que si on peut leur faciliter l'accès, c'est bien. Mais après, il faut comprendre aussi qu'il y a des fois des réticences des personnes handicapées ou des parents pour ne pas venir, parce que ça rajoute encore des choses. Quand on amène un enfant au conservatoire, déjà quand il est valide, c'est déjà un enseignement qui est lourd. Quand il est handicapé, c'est encore plus lourd. Tout est plus compliqué, tout est plus difficile, tout demande plus de temps avec un handicap.
D'où la nécessité, Geneviève Pernin, de pouvoir vraiment accompagner et d'avoir d'accompagner tous ceux et toutes celles, les ceux qui viennent pratiquer la musique, oui. Les parents, les enseignants, et de trouver une dynamique cohérente.
Oui, oui, et en mouvement sans arrêt. Alors encore une fois, tant mieux parce que je suis danseuse et que je peux un peu bouger. Mais effectivement, c'est rien n'est acquis. Ça va peut-être marcher pour telle personne et ça va peut-être marcher pour telle personne à tel moment. Et puis à tel autre moment, il faudra inventer autre chose. Donc voilà, rester très curieux, très ouvert pour pouvoir prendre des expériences chez les gens, chez les uns, chez les autres. Et être aussi, je dirais, très humble dans notre pratique, puisque, encore une fois, rien n'est acquis. Et dans le fait de taper à la porte, moi aussi, au début, j'ai un tempérament où je dirais, je force un peu. Alors, je continue à forcer, je lâcherai pas le morceau, en gros. Mais en même temps, je compte beaucoup, par exemple, cette proposition d'émission. Je me dis, voilà, on parle du handicap, on ne fait pas de la musique, de la danse, là, mais on en parle, on dit que les portes sont ouvertes, on entend des musiciens, et puis d'autres expériences. Et petit à petit, par la porosité, comme ça, on peut espérer que ça se diffuse lentement, doucement, mais c'est tout le temps là, c'est tout le temps présent. Parfois, c'est des grosses flaques, des grosses plaches, et puis parfois, c'est juste des pichis, mais c'est toujours là.
C'est bien, c'est sur ces propos-là qu'on va conclure notre émission, mais on va laisser aussi place à la musique et on va retrouver Mathieu Delanoë. Merci beaucoup Mathieu Delanoë. pour ce moment de musique, nous avoir emmené aussi au son de ce bel instrument qui est quand même voilà la trompette, les cuivres. Voilà, on aurait envie de poursuivre encore hein, ce moment. Ah, mais il y a encore les choses sont là. En tout cas, pleine réussite à vous pour ce que vous allez entreprendre hein, sur ces chemins de la musique. Et puis, allez-y, je vous en prie.
Non, j'allais dire merci.
Voilà, et nous arrivons, nous dépassons de quelques petits instants, voilà notre émission. Grand merci à vous toutes et à vous tous d'avoir donc participé à cette émission. Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez podcaster quand vous le souhaitez la présente émission en vous rendant sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Bonne suite avec Radio B et à très vite.